RMC, entre les poteaux.
Entre les poteaux, spécial demi-finale du top 14 et la deuxième ressemble à un choc de titans entre le MHR, deuxième de la saison régulière, et le Stade français, troisième. On va beaucoup parler de mêlée, de jeu d'avant, de puissance dans ce numéro. Les poteaux ne s'arrêtent jamais, on est en direct de Marseille. On est donc devant le Vélodrome. Avec moi, on n'a pas les profils les plus imposants, mais ils ont poussé la double poussée, la flexion liée jeu. Pierre Thévenet, Romain Asselin sont avec
Julien.
Moi.
Salut Julien. Tu sais qu'on est vice-lair, nous, attention.
Et pour donner un peu de contexte, Julien Landry vient d'envoyer le jingle en même temps de mettre un énorme coup de poing dans le toit de la voiture, voilà. Parce qu'on fait ce podcast sur le parking du Stade Vélodrome.
Exactement. Et on se plonge donc dans cette deuxième demi-finale. Commençons par Montpellier, qui a une petite semaine de repos avant ce match et qui arrive porté par une dynamique de 10 victoires consécutives, 22 succès en 25 rencontres et qui ne veut pas s'arrêter là, qui n'a rien voulu changer. Joanne Codulo.
Je voulais une semaine normale parce que ça marche en ce moment, donc pourquoi changer des choses? Après, j'ai des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont gagné, donc je sais ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils vont faire demain. Je suis content qu'on ait pu amener ce club en demi-finale, mais après, c'est pas une fin en soi, même si c'est une saison réussie, avec une challenge gagnée, avec une demi-finale directe, mais on a envie d'aller plus loin, et on sait que demain, ça sera un match compliqué, mais on a envie de se confronter à cette belle équipe du Stade français.
Messieurs, on a donc les compos qui viennent de tomber, une semaine normale et rien n'a changé quasiment côté Montpellier, hein, Romain.
Avec une première ligne composée de Erdosio, Welessé et Awas. La seconde ligne dans la cage, Verag associé à Duguide. La troisième ligne, Vunipola entouré de Béconnier et Nouchi qui sera capitaine. Price Mioti, c'est la charnière type évidemment côté MHR qui sera aligné donc ce samedi soir au Vélodrome face au Stade français. Au centre, on va retrouver Arthur Vincent et Auguste Cadeau. Sur les ailes, Ngandebe et Taofi Fenua. Et à l'arrière, Tom Banks. Un banc 5-3 concocté par Joanne Codulo et son staff. 5 avant, Tolofua, Forletta, Oumpatin en première ligne, Baird et Massibaka pour les accompagner dans le pack en cours de match. Et puis 3 arrières avec Colli qui prendra sans doute le but en cours de match. Picardo et Darmon côté 3 quarts.
Montpellier. Tu les connais très bien, c'est du très grand classique cette combo.
Oui, il manque juste Yacouba Camara qui avait pris ce carton orange sur la dernière journée contre Lyon. Mais voilà, c'est la seule absence de marque. On parlera après tout à l'heure de Mili Kidze côté Stade français. Mais voilà, l'absence côté Montpellierain. Les seules incertitudes finalement côté du MHR, mais on va en parler aussi, c'est qui démarrait en première ligne et qui allait terminer.
Est-ce que ça a une importance?
Finalement non, mais comme quoi la hiérarchie s'est un peu inversée, parce que c'était Oumpatin et Forletta qui étaient en titulaire lors de la finale de la Coupe d'Europe, et c'est donc ce week-end Awas et Erdosio qui vont démarrer. Mais voilà, on sait que les deux premières lignes sont du même niveau. Messieurs, est-ce que Montpellier, un petit peu comme à l'image de Toulouse hier, est-ce que Montpellier est favori de cette demi-finale du fait d'avoir eu cette petite semaine de repos, qui n'est pas forcément du repos, mais ouais, pour refaire un peu de frais?
J'ai envie de répondre à ta question par une autre question. Comment ne pas l'être favori? À mon sens, ils le sont clairement face au Stade français. Il y a évidemment ce repos supplémentaire. La fraîcheur va sans doute compter. Mais au-delà de ça, il y a les statistiques que tu égrenais tout à l'heure. Cette dynamique, elle est complètement dingue. 22 victoires sur les 25 derniers matchs. 10 victoires consécutives, c'est ça, toutes compétitions confondues. C'est monumental. Je vois pas comment tu peux pas placer le MHR favori de ce match.
Je suis d'accord avec toi sur la dynamique. Je mettrai un petit bémol, on en parlera après. Je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels le Stade français peut être plus fort que Montpellier. Contrairement à hier, quand on faisait un peu le Racing Toulouse, que vous avez peut-être déjà vu, que peut-être que vous attendez également. Non, mais Racing Toulouse me paraissait plus déséquilibré sur le papier. T'as l'impression que tous les secteurs, Toulouse, tu te dis c'est au-dessus. Là, on va parler de la ligne arrière du Stade français. On va parler de la dynamique aussi du club parisien. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus équilibré. Mais en effet, sur la dynamique.
Même,
la confiance et l'image renvoyée, c'est-à-dire quand tu parles à tous les acteurs du top 14 pendant la saison, ils te disent Montpellier, c'est dur, c'est épais, ça fait mal, on n'a pas envie de se les prendre en phase finale. Et puis ils ont marché sur tout le monde depuis.
Moi je trouve qu'ils progressent
depuis le début,
en fait,
du mois de décembre.
Ils progressent tout le temps. Ouais. On se rappelle cet accro en début de saison, première défaite à la maison. Et puis ensuite, cette équipe n'a cessé de progresser. C'est ça qui est très fort avec le Montpellier, Julien.
C'est les dynamiques, ça porte. Parce qu'en fait, l'équipe, elle est quasiment la même que la saison dernière.
La confiance.
Et un peu le Stade français d'ailleurs.
Léo Barré nous a dit ce matin. La confiance, c'est le seul truc qui change.
Le Stade français est aussi sur une série de victoires assez impressionnante.
Il n'allait pas bien l'année dernière.
Exactement. exactement, et n'allait pas bien l'année dernière. Justement, il y a ce côté revanchard un peu des deux côtés. Pierre, on se rappelle que le stade Montpellier, il y a 2 ans, il y a 24 mois tout pile, hein, ils étaient à Grenoble pour un match de barrage contre Grenoble, sauvé par une pénalité de Louis Carbonel à la 78e minute. Louis Carbonel qui joue au Stade Français et qui avait vécu lui aussi une saison cauchemardesque, entre guillemets, la saison dernière. Il y a ce côté revanchard aussi chez les deux, Montpellier et Paris.
Bien sûr, les saisons qu'ils ont vécues l'année dernière pour le Stade Français, il y a 2 ans pour Montpellier, ils les ont encore en travers de la gorge. Et dans les deux cas, ce sont des groupes qui n'ont pas énormément bougé. Pas du tout côté du Stade Français. Il y a eu un ou deux ajustements, Tani Vigno, Adéné. Très peu également côté Montpellier, c'est quasiment les mêmes joueurs. Donc ils vont être portés par ça. Et je pense aussi par l'idée qu'il n'y a rien à perdre sur une phase finale comme ça. Ils y sont, peut-être que l'année prochaine, ils vont rejouer le maintien. On ne sait pas, ce top 14 est tellement fou que là, je pense que les deux équipes sont dans l'idée de profiter un maximum. On a l'impression, comme on a dit plusieurs fois, que ce championnat n'a jamais été aussi ouvert et que tout le monde peut gagner dans les quatre. Et je pense qu'on va avoir une super demi-finale parce que c'est des équipes en pleine forme, physique et dans leur rugby, dans ce qu'ils produisent. Et je pense qu'on va avoir un match équilibré et très sympathique.
Ouais, dans ce côté incertain, on rappelle cette statistique, hein, 5 des 6 équipes qui ont joué les phases finales n'y étaient pas. Exactement. La saison dernière. Il y a Toulouse, le survivant, comme l'a dit Hugo Mola hier. Nous sommes les survivants. On fait office de survivants dans ce côté-là. Non, mais ce côté revanchard, ça peut compter aussi, Romain, dans ce côté-là. L'envie de prouver que ces groupes-là, d'une saison à l'autre, sont capables de passer du pire au meilleur.
Je pense que tu es habité par un truc aussi, sans commune mesure, qu'on a peut-être du mal aussi à observer de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça doit être fou. Enfin, on ne se rend pas compte, mais ils ont failli descendre en Pro D2. Ça s'est joué, tu l'as dit, mais sur rien. Le vécu collectif que tu peux construire sur ce genre d'événement-là est énorme. Et moi, ce que j'ai senti lors des conférences de presse matinales, à la veille du match, c'est que, alors, je l'ai peut-être plus ressenti côté montpellierain que côté parisien, mais encore que, on sent que les deux chassent la pression. Ils sont arrivés assez détendus. J'ai l'impression qu'ils vraiment ils voulaient.
Très sûrs de leur force, ouais, des deux côtés. Ils savent quel rugby ils ont envie de pratiquer. Ils sont très clairs. On parlait du Racing qui s'adapte beaucoup à l'adversaire. Là, c'est des équipes type des deux côtés. C'est l'équipe qui marche. On va imposer notre style, on va faire comme ça. Deux équipes qui, je trouve, ont une grosse confiance envers leur staff aussi. Que ce soit Montpellier ou Stade Français, c'est des staffs qui ont réussi à renverser une tendance et qui, du coup, je pense, emmènent leur groupe complètement derrière eux. Et c'est pour ça que tu disais que c'est des équipes assez similaires. Et tu l'as dit, très détendu. Je suis assez d'accord.
Et la différence, c'est que tu parles de staff. Le staff du Stade Français, lui, a évolué quand même assez largement, même peut-être. Enfin, en tout cas, on sent que l'impact des
patrons
des nouveaux venus.
Paul Custard est toujours le patron, mais en effet, les nouveaux venus.
Il est patron mieux identifié. Oui. C'est ça aussi le truc. Ouais. Il est bien entouré.
Et en parlant de staff, sur les 4 finalement demi-finalistes, on parlera aussi du staff de Montpellier, on évoquera le cas du Stade Français juste après. C'est un staff jeune, on le rappelle, hein, mis sur place par Moued Altrad au lendemain du barrage où Patrice Collazo avait réussi sa mission maintien. Un staff identifié ADN montpelliérain, Johan Codulo qui n'avait jamais entraîné au haut niveau. Et on a posé la question à Johan Codulo ce matin, donc veille du match, si c'était le match le plus important de sa carrière.
Je l'ai préparé de la même façon et j'ai envie de vivre un bon moment avec les joueurs. Et c'est ce qui m'importe. J'aime bien vivre les moments et passer rapidement à la suite. Bien sûr que ça va être un grand moment pour moi, pour les joueurs, pour mes proches. J'ai envie de le vivre simplement comme un match normal. Et on fera les comptes après pour savoir si c'était le match le plus important de ma carrière d'entraîneur. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on ait une bonne com. C'était pas le cas les années précédentes et je trouve que depuis 2 ans, on y arrive et c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui.
Vous avez découvert Johan Codulo, il dégage quelque chose de sympathique.
Je suis d'accord qu'il dégage quelque chose de sympathique, là il ment quand même.
Oui.
C'est évidemment le match le plus important de sa carrière d'entraîneur.
Non, ce sera la semaine prochaine peut-être.
Oui, non mais tu vois ce que je veux dire.
C'est... Non, mais une très bonne réponse aurait pu être de dire c'est le prochain, le plus
c'est
important.
Le prochain, évidemment. Mais
non, mais là évidemment aujourd'hui.
Ce que je veux dire, c'est que t'en parlais, c'est un entraîneur.
Après, ils ont gagné une finale de Coupe d'Europe. Il a le droit de... Non, mais une petite Coupe d'Europe.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Non, mais il y avait un
titre. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il est très sympathique et deux, c'est un jeune entraîneur qui découvre ce très haut niveau-là. Quand je dis évidemment que c'est le match le plus important de sa carrière, il n'a jamais été à ce niveau-là dans l'élite.
Alors, il ne change pas de sa ligne de conduite dans sa communication, moi je trouve, Julien, toi qui le fréquente vraiment au quotidien, enfin en tout cas toutes les semaines. C'est d'ailleurs avec ça qu'il termine son message. C'est moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'image de Montpellier. Moi, c'est un truc que j'ai entendu beaucoup de fois cette saison.
Et que tu nous as dit beaucoup aussi, Julien, c'est que Montpellier ouvre ses portes. Montpellier a envie d'être bien perçu, non pas d'être perçu comme une équipe qu'ils ne sont pas, mais que les gens voient ce qui se passe à Montpellier. Et pour raconter une anecdote, Johan Codulo est dans les 4 managers le seul qui s'est arrêté, qui a discuté avec les journalistes, les joueurs aussi. On sent que les Montpelliérains sont beaucoup plus accessibles que les Parisiens, les Racingmen et les Toulousains. Il y a un côté, tu sens qu'ils veulent renforcer cette image un peu familiale. et deux, on est un club qui ouvre les portes à tout le monde.
Après, ils ont beaucoup souffert de l'image du Langbok, de l'équipe à l'époque sud-africaine. Quand Moued Altrade est arrivé à ce club-là, Montpellier était un club très sympathique. Hein. On rappelait le souvenir de Joan Codulo de cette demi-finale de 2011 où Fabien Galthié venait d'arriver avec Eric Béchu. Et Joan Codulo dit ce matin, on n'avait aucun joueur qui méritait d'être en demi-finale, mais ils avaient été portés par un engouement, par la folie de Fabien Galthié. Et c'était un club sympathique qu'il est devenu moins au fil des temps de par les dingueries de Moued Altrade, par les joueurs recrutés, la perte justement d'ADN et qui est aujourd'hui au cœur du projet.
Et le stade un petit peu vide aussi.
Oui, en plus, mais voilà, qui est aujourd'hui au cœur du projet, l'ADN, on va en parler d'ailleurs, c'est-à-dire une grosse défense, une conquête, une mêlée. Joan Codulo, il a mis ça au cœur de son projet d'entrée. Et puis c'est vrai qu'après, il y a ce côté d'ouvrir des joueurs formés au club, beaucoup de staff passés par le club. Mais c'est vrai que cet ADN montpelliérain, il est très présent. Et on sait que c'est l'une des clés du match de demain soir, c'est le combat d'avant. Oui. C'est peut-être ce que j'ai écrit dans le papier web.
Toi, ça te fait frissonner.
Ah, mais on attend tous là en avant là pour avoir la mêlée. C'est le moment.
Il a même dit que t'espérais un renvoi direct en
mieux. J'avoue que ça serait pas mal. Non, mais c'est quand même. On a rarement vu un affrontement où avec deux mêlées aussi puissantes qui va s'affronter à ce moment-là de la saison.
Oui, parce que déjà, la mêlée du Stade français, c'est celle qui récolte le plus de pénalités. Hein. Ils sont à quasiment 83. Plus de 3 en moyenne par match. C'est considérable. On l'a encore vu en barrage contre La Rochelle la semaine passée. Et puis Montpellier, alors certes, ils récoltent un peu moins de pénalités. Ils sont quand même deuxième dans ce secteur-là, mais ils en subissent très peu des pénalités. Ils ont une première ligne qui est parmi les moins pénalisées de la division. Ça, c'est ultra important.
Il y a un petit bémol, on va en parler côté français, c'est l'absence de Jordi Melikidze qui, pour moi.
Il y a un conducteur, monsieur Pierre Tavenet, on va le respecter.
Vu qu'on parlait de la mêlée, qui déséquilibre un tout petit peu ce rapport de force.
Ouais.
On reviendra plutôt plus loin sur Melikidze, mais le paquet d'avant Montpellierin est le plus impressionnant physiquement, avec deux talonneurs, même les piliers
le
sont
plus homogènes.
Les talonneurs sont impressionnants aussi. Ils ont six joueurs de très haut niveau, tu l'as dit. Erdosio, Welese, Awas pour commencer. Forletta, Tolofoa, Ongpatin pour rentrer en deuxième mi-temps. C'est colossal. Et Romain en parlait, et on en a parlé avec plusieurs spécialistes de la mêlée, notamment Thomas Domingo, l'entraîneur des avants de la section paloise, qui nous racontait que la mêlée de Montpellier est la plus forte en termes de force brute, c'est-à-dire que c'est une mêlée qui va faire une double poussée très puissante, qui aime ça, qui veulent aller chercher loin dans la souffrance, et le Stade français est une mêlée, disons, plus propre techniquement. C'est une mêlée qui renvoie des meilleurs signaux à l'arbitre. Et c'est pour ça qu'il récupère plus de pénalités. C'est que c'est dans les positions, c'est nickel côté Stade français. Maintenant, est-ce que ce côté tactique-position va résister à la force brutale des Montpellierains? Ça va être le gros enjeu de ce match-là.
Attends, est-ce qu'on aura beaucoup d'en avant? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que là, on n'est pas sur un match d'hiver.
Non, c'est vrai.
Des en avant, des balles coffrées.
Il y a
plein d'opportunités d'avant.
Puis tu lâches volontairement le ballon. Une mêlée. Paul Gabriel, justement, le deuxième ligne du Stade français, a parlé de cette grosse conquête montpelliéraine.
C'est une équipe qui s'appuie sur une grosse conquête, également aussi une grosse défense. C'est une équipe aussi qui nous ressemble un peu parce que voilà, dans un passé proche, ils ont eu des saisons un peu plus compliquées aussi. C'est un peu ce qu'on a connu ici au club. Une équipe revancharde au niveau de la mentalité, comme nous aussi. C'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur sa conquête pour lancer le jeu, mais faut pas juste dire que c'est qu'une équipe qui a que la conquête. Je pense qu'ils ont aussi des individualités, des très bons joueurs derrière. Sincèrement, je me concentre plutôt sur nous que sur eux.
Concentrons-nous donc sur le Stade français. Pierre, avec la compo, t'en parlais donc. Avec le forfait, on va en parler évidemment de Melikidze qui va un peu déséquilibrer le rapport de force Montpellier-Stade français.
Sur le papier, oui, en effet, même si Melikidze, on le rappelle, était remplaçant face au Stade Rochelais en barrage, mais en fait, ça déséquilibre toute la structure parce que Paul Elo-Emile reste titulaire à droite, l'un des meilleurs droitiers du championnat, mais son petit frère, Moses Elo-Emile, qui était titulaire à gauche, passe sur le banc pour suppléer Elo-Emile. en cours de match parce qu'il n'y a plus beaucoup de droitiers au Stade français et que Moses Elo-Emile est capable de faire les deux. On a donc John Iscaro qui était sur le banc, il s'appelle John sur le site de la Ligue mais il s'appelle Jack en réalité, qui était remplaçant face à La Rochelle qui démarre titulaire en numéro 1 avec Giacomo Nicotera au talon et Paul Elo-Emile en numéro 3. Deuxième ligne, Paul Gabriel titulaire capitaine associé à Baptiste Pesanti qui lui était sur le banc contre La Rochelle. Sinon c'est la même équipe que le barrage, Alaï Fonoua, Briat, Tanga pour la troisième ligne. On avait un petit doute autour de l'épaule de Briat, il sera bien titulaire. Carbarlo Carbonel à la charnière, Marchant et Dakuaka qui a une magnifique teinture bleue et rose, je vous la conseille, sur l'aile droite, Nene Ward la paire de centre et Léo Barré à l'arrière. Et donc sur le banc, Pérez Blanc, Thierry Paiva qui rentre dans les 23 en pilier gauche et donc Moses Elo-Emile, Pierre-Henri Azago, Mathieu Irigoyen pour terminer le paquet d'avant, Paul Abadi, Samuel Ezeala et Tani Vili qui est capable de rentrer au centre ou en troisième ligne. Il a fait les deux hybride en une mi-temps contre le Stade Rochelais.
Pierre, tu disais comment, Romain, tu disais tout à l'heure, comment ne pas mettre Montpellier favori avec cette dynamique. Mais est-ce que la victoire probante du Stade français contre la Rochelle, 40 points passés, change un peu le rapport de force et remet finalement le Stade français, allez, peut-être 51-49, alors qu'on aurait peut-être pu dire un 55-45 en début de semaine.
Ce qui est très intéressant avec cette équipe parisienne, c'est qu'elle est capable de jouer sur plusieurs registres, en fait.
Je pense que c'est une des plus complètes des quatre de qui sont encore là en demi-finale.
Non, mais c'est une équipe qui franchit énormément. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de défenseurs battus, mais ça franchit et ça va marquer, quoi. Ils ont un pragmatisme vraiment phénoménal au niveau offensif. Des stats aussi, quand tu regardes la ligne de trois quarts, qu'on ne voyait pas il y a deux ans, parce qu'ils ont aussi changé leur fusil d'épaule, mais là, ils enfilent les essais. C'est 48 essais sur les 5 de la...
Du 11 au 15. Ouais, c'est-à-dire que Joe Marchand, Dakuaka, Léo Barré, Néné, Ward, les 5 titulaires, c'est 48 essais à E5, avec 12 notamment pour Léo Barré, 11 pour Jérémy Ward. Je pense que ce match de La Rochelle a montré à tout le monde ce que le Stade français était capable de faire, mais ce qu'ils étaient depuis le début de la saison.
Oui,
mais attention, la deuxième meilleure attaque du championnat.
Quelle équipe de La Rochelle aussi.
Non, bien sûr, que je te dis que ce match de La Rochelle, il est juste un signal envoyé au grand public, mais que c'est ce qu'ils font depuis le début de l'année.
Oui.
Mais en effet, La Rochelle était pas en bon état.
Oui, et puis La Rochelle s'attendait pas à ça. Enfin, ça, on en avait discuté, et je pense qu'ils surprennent aussi tout le monde parce qu'ils ont quand même changé assez vite de registre et ça marche, c'est ça qui est fort, moi je trouve. C'est que ça marche assez vite. Normalement, tu as quand même un temps d'adaptation, des repères à prendre. Eux, tu as l'impression que ça s'est d'un claquement de doigts. Bon. Alors qu'on rappelait la saison dernière, ils ont quand même joué le maintien jusqu'au bout, quoi.
Il y a plusieurs choses qui ont changé, l'état d'esprit. On parlait du staff tout à l'heure. Rory Cocotte est arrivé, a fait beaucoup de bien aux têtes au Stade français. Perry Freshwater est arrivé, a fait beaucoup de bien à la mêlée du Stade français. Louis Carbonel s'est remis la tête à l'endroit et a reçu les clés de cette équipe. Et mais ça a fait beaucoup de bien aussi.
Comment il a fait?
Il nous l'a raconté. Il a dit, deux semaines avant la rentrée, je ne savais pas si je jouais au Stade français.
C'est ça qui est dingue.
Et lui, il a dit, je me concentre sur moi. C'est-à-dire, je refais le début de la saison en disant, je joue pour, entre guillemets, pour moi. Je joue pour progresser.
Non, mais c'est-à-dire qu'il part de zéro au niveau confiance, il part de zéro, de moins 100, de moins 100.
Même s'il dit que sa relation avec Paul Gustard continue à être bonne. Et en fait, il dit, moi, je me suis mis à mieux jouer et j'ai vu que l'équipe aussi s'est mis à mieux jouer. Et tout de suite, ça s'est simplifié. C'est ce que Léo Barra a répété ce matin. La confiance, c'est que ça. Le Stade français, on peut le résumer avec cette idée de confiance. Maintenant, pour moi, il va y avoir deux clés. C'est un, est-ce qu'ils vont réussir à tenir le ballon contre cette équipe de Montpellier qui défend très fort? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver les mêmes intervalles qu'ils trouvent habituellement? Et deux, ça va se jouer au niveau de l'énergie. On en parle tout le temps. Au-delà de ce match joué en plus, qui évidemment va compter, mais je parle de l'énergie dans le niveau d'intensité qu'ils vont mettre. Contre La Rochelle, c'était des chiens. Tous les joueurs, les 10 premières minutes de Briat et Jérémy Ward, c'était que ça monte fort, ça plaque très fort, tous les impacts étaient joués à 500%. Paul Gabriel a dit, on voulait être les premiers sur tous les rucks, partout sur tous les ballons. S'ils arrivent avec cette mentalité-là, ils vont être très durs à jouer. Maintenant, Montpellier va offrir évidemment une autre adversité.
Avec, pour le coup, deux demi-finales qui sont très différentes. Ouais. Une opposition de style totale entre le jeu toulousain et la densité du Racing contre, finalement, deux équipes qui ont l'impression que ce sont des jumelles. Une défense très forte avec Cocotte et Doumerou.
C'est vrai.
Un paquet d'avant très solide, des individualités derrière, avec deux entraîneurs spécifiques. C'est quoi qui va faire la différence sur ce match-là?
Moi, je voulais te renvoyer la question. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que Montpellier est plus fort devant et je pense que le Stade français est plus fort derrière. Tu me disais que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que la ligne arrière de Montpellier est capable, un, de résister aux assauts du Stade français et deux, de les mettre en difficulté? Moi, c'est ma grande question. Est-ce que les trois quarts montpelliérains sont capables de produire un jeu qui va embêter les trois quarts?
Après, ils ont beaucoup progressé depuis le début de saison. Benoît Payog a fait un gros travail. Ils ont pour le coup Picardo sur le banc, donc il va y avoir un profil différent, mais ils ont 2-3 quarts centres qui sont plutôt joueurs, Arthur Vincent et Auguste Cadeau, qui sont capables de jouer dans les intervalles, qui vont pour le coup offrir un profil un peu différent à cette équipe montpelliéraine. Bon, je vous annonce qu'il va y avoir Lenny Nouchi au milieu du terrain, Nicolas au milieu du terrain, il va y avoir des premières percussions très fortes, mais après ils vont essayer d'aller rapidement sur l'extérieur. Et puis ils ont un 10 pour le coup qui joue lui aussi à sa main, qui joue assez loin, très doucement, mais qui se régale de ce jeu-là. Parce que les Montpelliérains, ils savent que leur force, d'ailleurs, Joanne Codulo, on l'a entendu tout à l'heure, le leitmotiv, c'est de concasser le Stade français devant, c'est de leur faire mal. Et je pense que dans la stratégie, c'est la rentrée du banc montpelliérain. Quand on voit le banc montpelliérain, t'en parlais Romain, avec Adam Bird, avec Massi Baka, avec cette première ligne, avec Picardo qui peut rentrer. Je pense que les Montpelliérains visent l'intensité sur la longueur de ce match-là.
Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu plus de talent individuel au Stade français, surtout derrière. Montpellier n'a pas Noah Néné, Montpellier n'a pas Dakuaka, Montpellier n'a pas Léo Barré. Ils ont des joueurs, je ne dis pas que Tom Banks est moins fort que Léo Barré, mais Tom Banks crée moins. Ils ont moins de folie, je trouve. Maintenant, ils sont plus méchants, plus durs et plus en forme et avec un meilleur banc.
Moi, je pense que la clé pour Paris, c'est d'être réaliste. Je disais qu'ils étaient pragmatiques, ils franchissent beaucoup, ils marquent sur leurs occasions. occasions vraiment. Maintenant, on sait que Montpellier perd très peu de ballons. Paris n'est pas une équipe qui a la possession, donc qui se nourrit quelque part de miettes, ce qui fait de miettes un festin. Face au système défensif de Geoffrey Doumerou, moi, j'ai envie de dire que ça passe ou ça casse. C'est soit ils sont capables de marquer sur leur temps fort, mais à chaque fois. Et si ce n'est pas le cas et qu'ils se cassent les dents à force de se casser les dents, moi, je pense que là, la clé, elle est là pour moi, pour Paris. Et pour Montpellier, c'est de résister sur les assauts, les rares assauts, je pense, parisiens du match.
Johan Codulo se méfie beaucoup de cette équipe du Stade français. Il en a parlé. Il faut dire que le Stade français est la seule équipe qui a mis un bonus offensif au MHR.
C'est la seule équipe qui nous a mis un bonus offensif, pour être très clair. Quand on démarre avec un constat comme ça, il y a énormément de respect à avoir par rapport à cette équipe. Nous, on ne parle pas de Brennus. On parle d'essayer de gagner une belle équipe du Stade français. Bien sûr, c'est une équipe qui, quand elle a trouvé la clé du coffre-fort, qu'elle a trouvé assez facilement contre La Rochelle, elle est capable de jouer et bien jouer au rugby. Elle a les moyens de bien le faire. À nous, justement, qu'ils puissent ne pas trouver cette clé-là et qu'on puisse créer un bras de fer face à eux et l'emporter. On sait que ça va être un match physique. Nous, en tout cas, on est prêts à en découdre. Et s'ils sont meilleurs que nous, ils gagneront.
Avec beaucoup de duels dans ce match. Alors, c'est difficile d'en sélectionner.
À tous les postes.
C'est vrai qu'il y a des duels quasiment partout. Qu'est-ce que vous avez décidé de choisir comme duel que vous allez suivre avec attention?
Pour moi, le duel où les deux joueurs étaient en contention pour être dans l'équipe type RMC de la
saison. Oh là là, il va me piquer.
Les numéros 8.
Ah non, d'accord.
En contention. 8. En contentieux.
En contentieux.
Contentieux. Ouais.
Non, mais c'était pas contentieux que je cherchais.
Contentieux, c'est quand même.
C'est pas nous des deux.
C'est les bas de contentieux.
Ouais, c'est ça, ouais.
En compétition.
On coupera peut-être, pas sûr, non, mais on vous le laissera.
Tout, vous allez laisser, vous moquer de
ça,
moi.
Ça, c'est un Oscar, ça.
En compétition.
Billy Vunipola, ouais. Et Johan Tanga. Parce que Billy Vunipola est un des hommes de la saison du MHR. Julien nous en parle toutes les semaines, à quel point il est impressionnant, à quel point il est important dans le vestiaire de Montpellier, à quel point ce matin, quand il s'assoit en conférence de presse, tout le monde baisse un peu les épaules parce qu'il fait peur, tout simplement. Il est très très costaud. Et c'est vraiment le point d'ancrage de cette équipe de Montpellier.
Mais pareil, il est sympathique. Quand il a tenté de répondre en français.
Ouais, il a tenté.
Il a dit mon français est limite, j'aimerais, mais c'est difficile. Ouais. Il y a ce côté un petit peu attachant aussi, finalement.
Il dit des choses, quoi.
Ouais, c'est en plus, ça, c'est vrai.
Parce que t'as beaucoup d'anglophones, ils répondent en anglais.
Non, c'est sûr qu'il est investi dans
quoi, ouais. Je veux dire, lui, il a dit des choses ce matin, super intéressantes en fait.
Et par rapport à Johnny Hill hier, par exemple, Racing, qui n'avait pas envie d'être là, ou qui n'avait pas envie de parler, alors que Vunipola, il a eu envie de parler, ouais. Il a dit des vraies choses intéressantes.
Et en face de lui, Johan Tanga, qui pour moi est le joueur de la fin de saison du Stade français. Il a retrouvé sa superbe, c'était très compliqué pour lui l'année dernière à cause de problèmes personnels, à cause aussi de la saison du Stade français qui était très compliquée. Et là, il a pris une dimension dans cette équipe. Je trouve que c'est un des troisième lignes les plus intelligents dans ses courses. C'est pas frontal. Il va trouver des portes, ouvrir des portes pour ses coéquipiers, mettre ses coéquipiers dans l'intervalle, franchir quasiment systématiquement. C'est redevenu un leader. Et lui, on en parlait, Romain, tout à l'heure à l'entraînement, c'est pas le joueur le plus imposant. Il est plutôt petit, Johan Tanga, pour un troisième ligne centre.
C'est pas le joueur le plus effrayant. C'est sûr.
Quand tu le vois, tu dis pas, oh, il est énorme. Ouais. Tu vois, là, il faut Noah, tu te dis, il fait peur. Tanga, il a un physique, il est plus petit. Mais c'est vrai que je le trouve hyper intelligent. Et pour moi, qui va être le plus dominant entre les deux, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser.
Romain, tu vas t'intéresser à qui ?
J'allais partir sur un duel de 10, je vais élargir à la charnière. Carbarlo Price. Waouh, déjà joli duel. Carbarlo, j'avais des doutes sur sa capacité à rebondir en partant de La Rochelle.
Il a été beaucoup géré, Carbarlo.
Oui. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il est très bon sur le, j'allais dire, peu de temps de jeu
qu'il a. Il joue 55 minutes en général.
Ouais. Avant, c'était fréquent de le voir 70-80 minutes, c'est plus le cas. Il fait très bien le taf et Price qui ne cesse d'impressionner, moi je trouve. Il a une qualité de passe qui est phénoménale aussi et il fait beaucoup de bien à cette équipe Montpellier-Rennes. Et puis les 10, tu parlais de Carbonel tout à l'heure, la renaissance de Carbonel, la renaissance de Gnotti aussi. C'est pas le même style, mais Gnotti, quelle saison aussi. Moi, il m'impressionne. Alors, petite interrogation sur son état de forme, parce qu'il revient de blessure, si je dis pas de bêtises. Il a pas joué depuis la finale, il s'était blessé à la finale de Challenge Cup.
Au genou.
Bon, après, je pense qu'il a été géré aussi pour ça. Mais je trouve qu'il fait une saison de dingue. En fait, le parcours des deux est très inspirant. Parce que, alors, c'est pas les mêmes raisons, le même contexte, mais c'est assez similaire, leur résurrection.
La renaissance, qu'on n'attendait pas.
Ouais, cette saison. Parce que Miotti, on pensait qu'il allait partir. Là, il a été prolongé. Alors, je veux dire, ils avaient quand même quasiment le foot dehors la saison dernière. Incroyable la résilience de ces deux garçons.
Miotti annoncé perdu pour le rugby la saison dernière, arrivé en provenance d'Oyonnax. Genou qui à chaque fois qu'il s'entraînait triplé de volume. Il a fait 4 pauvres matchs la saison dernière. Et en fait pareil, c'est une saison un peu bizarre. Il n'est pas censé démarrer la saison, mais des blessures au poste de numéro 10 font qu'il le lance, il crée la dynamique et il est aujourd'hui titulaire. Et bon, ils l'ont ménagé pour la fin de saison. Alors, ils auraient voulu le prolonger 3 ans, mais oui. Avec son genou, ils se sont contentés de 2 en se disant peut-être qu'ils rajouteront une année. Mais c'est vrai que ça fait des duels à suivre. Alors, on a évidemment parlé des duels de première ligne qui seront intéressantes. On pourrait Cadeau Néné. Ouais, ou Vincent Néné, Cadeau ouais. Marchant. Cadeau Ward.
Cadeau est en 13. Non, mais Cadeau Néné dans le sens où c'est deux jeunes joueurs, même si Néné est encore plus jeune.
Cadeau suivi par l'équipe de France, bien sûr, en Nouvelle-Zélande.
Néné y est allé cet hiver, ça a été compliqué pour lui. Il n'est peut-être pas encore prêt pour ça. Mais Néné, pour le coup, tout le monde l'annonce comme une bombe, parce que c'est une bombe. Cadeau a une progression un petit peu plus lente, plus dans l'ombre, mais deux joueurs ultra puissants qui vont franchir, c'est certain. Et il y a un gros duel là aussi.
Ouais, et puis après, le Banks barré avec des profils différents. Banks qui a débarqué là, totalement inconnu en provenance du Japon, et qui se retrouve aujourd'hui le joueur qui a disputé le plus de minutes de notre championnat, qui est sur les ballons hauts. Voilà, après les interrogations, c'est comment ils abordent ces matchs de phase finale. On sait que pour les Français, c'est toujours un moment particulier, que pour les étrangers, une Coupe d'Europe est souvent plus importante qu'un top 14. Mais voilà pour les duels à suivre, messieurs, en tout cas, ça nous annonce un match âpre.
Ça va être
physique.
Des en avant.
Non, mais ce qui va pouvoir compter aussi, c'est que ça peut un match qui peut laisser des traces physiquement, parce que on peut imaginer que ça va taper très 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 fort.
Et puis t'as un jour de récupération en moins pour la finale.
Un jour de récupération en moins pour la finale et que ça peut taper très fort et que ça peut compter.
Un jour de récupération en moins, mais tu joues du samedi au samedi quand même. T'as une semaine complète. Après, il faudra voir qui reste de vivant durant cette
semaine. Non, mais c'est. On va compter les morts.
Dans les deux sens, ça va taper très fort en effet.
Merci messieurs pour cet épisode spécial deuxième demi-finale. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des commentaires, de vous moquer de nous, de nous dire que c'est bien. On va vous accompagner tout l'été. On ne vous laissera pas en bord de chemin. On se retrouve évidemment lundi pour débriefer ces demi-finales, pour se projeter déjà sur la finale qui nous excite et ce bouclier de Brennus que les 4 équipes veulent porter et aller chercher. Bonne soirée et bonne demi-finale.